Chapitre 7. Ce fut par une tiède et pluvieuse journée d'avril qu'Aliette se dirigea vers la prison. Assise au fond du tramway et regardant avec un inexprimable accablement la pluie, la boue, les gens qui couraient à leurs affaires, les quartiers populeux qu'elle traversait, elle songeait aux contrastes amèrement ironiques qui existaient entre les événements de sa vie et les pensées intimes de son âme. Au milieu de cette honte, de cet effondrement, jamais elle n'avait éprouvé de plus vifs élans vers le bien. Elle suivait sans résistance cet instinct secret qui avait longtemps végété au fond d'elle-même pour prendre peu à peu une forme nette, instinct qui la rejetait vers Dieu lorsqu'elle était plus particulièrement écœurée ou plus abandonnée. Elle descendit à la rue du Faubourg Saint-Denis, la traversa et resta longtemps hésitante sous le large porche de la prison. L'arrivée d'une voiture cellulaire, pour laquelle on ouvrit la grille pleine qui est au fond de l'entrée, l'obligea à se reculer. Elle jeta un coup d'œil timide sur la cour intérieure, vit descendre des prisonnières et frissonna en pensant que sa mère avait été amenée l'avant-veille dans une voiture semblable. Elle s'approcha de la porte, souleva le petit marteau et avant d'avoir pu reculer, comme elle en avait eu la pensée, elle se trouva en face d'un vieux gardien à cheveux blancs. « Vous venez pour un renseignement, mademoiselle ?»«
Je viens pour voir une prisonnière, madame de Sarzac. »«
À quel titre ? Vous avez une autorisation ?»«
Je suis sa fille, balbutia-t-elle, et voici l'autorisation. »
Il la regarda avec étonnement et sa physionomie exprima « Quelle pitié, mon Dieu !» Puis il la précéda dans un autre appartement, moitié chambre, moitié corridor, où un second gardien la pria de s'asseoir pendant qu'il allait porter le papier au directeur de la prison. Quelques minutes après, on venait la chercher pour l'introduire dans le parloir. Ce parloir est le fond d'une vaste pièce qu'on a divisée par un épais grillage en trois couloirs étroits. Aliette resta debout en attendant sa mère, se demandant si elle était bien dans la vie réelle. Elle espérait vaguement qu'un fait romprait le charme funeste, détruirait l'affreux cauchemar et la rendrait à l'existence de tout le monde. Mais non, c'était bien la réalité. La pluie fouettait les vitres de la fenêtre auprès de laquelle un gardien était assis. Elle venait de remplir des formalités banales, sa présence dans ce lieu abominable où des générations de criminels avaient passé, n'était elle-même, aux yeux des gens de la prison, qu'une banalité de leur vie quotidienne. Une petite porte fut ouverte avec bruit et madame de Sarzac, qui avait la permission spéciale de voir sa fille derrière un seul grillage, car habituellement deux grilles séparent les prisonnières de leurs visiteurs, entra dans le couloir du milieu. La jeune fille, écrasée par une lourde oppression, essayait vainement de parler et remarquait l'air hostile de sa mère, dont le premier mot fut cruel.
« Eh bien, Aliette, voilà ton ouvrage !»
Mademoiselle de Sarzac, qui arrivait le cœur plein de pitié et d'une compassion très peu méritée, fut terrifiée par ce début.
« Oui, reprit la baronne, ma fille pouvait me sauver !» et par un de ses prétendus sacrifices qui n'eut en rien, plus tard, compromis son bonheur, puisque toute sa vie elle aurait eu une existence élégante et confortable, mais par un sentiment d'égoïsme. Ah, tu ressembles bien à ton père, toi !»
Aliette avait trop souffert et trop réfléchi pour que son expérience du cœur humain ne fût pas bien supérieure à l'expérience ordinaire des femmes de son âge. Elle comprenait le soulagement que sa mère éprouvait à laisser déborder n'importe quel sentiment violent, et bien qu'elle fût mortellement blessée d'en être la victime, elle n'essaya pas de protester.
« C'est à l'instigation de cet odieux lassant que j'ai été arrêtée, et arrêtée pourquoi ? Je ne suis pas coupable, j'ai seulement été imprudente, mon avocat saura le prouver. » « Presque toutes mes dettes sont payées, je ne dois guère que les 30 000 francs de cette femme. Mon mobilier représente une valeur supérieure à celle-là et j'étais décidée à tout vendre pour me libérer. »
Après un silence qu'Aliette, au milieu de ses larmes, pouvait rompre, la baronne reprit avec éclat
« C'est horrible d'être enfermée ici, dans une révoltante promiscuité, avec des femmes qui sont de vulgaires voleuses et dont l'une est accusée de complicité dans un assassinat. » Longtemps elle parla, sans que sa fille, défaillante d'horreur et de dégoût, en écoutant les révélations de sa mère sur la prison, pût répondre un mot.
« Avez-vous choisi un avocat ? » demanda-t-elle enfin.
« Oui, monsieur Bartel. Il prouvera que je ne suis pas coupable. Il me croit, lui. Il n'est pas comme ma fille. »
« Rappelez-vous notre voyage en Bretagne, » balbutia Aliette.
« Tu as dénaturé les fêtes, ainsi n'en parlons plus, » répondit la baronne avec colère.
« Que puis-je faire pour vous ? » demanda doucement la jeune fille. « Y a-t-il des démarches qui pourraient vous être utiles ?»«
Je n'en sais rien encore. Reviens me voir quand tu pourras, à moins que tu ne veuilles m'abandonner. »«
Vous voyez bien qu'il n'en est rien. » « Avez-vous besoin d'argent ?»«
Sans doute, on a toujours besoin d'argent, surtout dans une caverne comme cette prison. Et c'est moi qui suis ici. Mais je me défendrai, je tiendrai tête à ces imbéciles de magistrats. »«
Je vous ai apporté 100 francs, » reprit Aliette.
« Tu ne peux pas me les passer à travers ce grillage. D'ailleurs, je crois qu'il faut des formalités, s'adresser au directeur, je ne sais quoi, enfin. »
« J'irai en partant, » répondit-elle. Elle espérait toujours un mot d'attendrissement ou de regret, mais jusqu'à la fin de la visite, Madame de Sarzac récrimina contre sa fille, son mari, et surtout contre la société dans laquelle une femme de sa condition et de sa valeur ne pouvait prendre sa place et agir contre de vulgaires, stupides préjugés sans être enfermée.
« La demi-heure est passée, » dit le gardien en s'avançant. Sans un mot affectueux, sans un remerciement, la baronne se dirigea vers la porte qui communique avec l'intérieur de la prison. Mademoiselle de Sarzac fut conduite chez le directeur dans un cabinet très clair dont les deux fenêtres ouvraient sur la cour qu'elle avait aperçue en arrivant. Une prisonnière, dont elle remarqua l'air sournois et vicieux, écoutait quelques mots que lui disait le directeur, pendant qu'un gardien, assis à une petite table, compulsait des papiers. En s'en allant, la femme regarda effrontément Aliette, qui se sentit pâlir en pensant qu'elle pouvait être une des compagnes de sa mère.
« Que désirez-vous, mademoiselle ?» lui dit le directeur.
« Voulez-vous, monsieur, remettre ces 100 francs à ma mère ?»«
À votre mère ?» répéta-t-il avec surprise. Puis il se souvint de la permission qu'il avait délivrée une heure auparavant et répondit
« Certainement, mademoiselle, je les lui remettrai. »
« Combien de temps restera-t-elle ici ?»«
Jusqu'à la fin de l'instruction, 2 mois environ, je crois. »
« Ne pourrait-on, dit Aliette d'une voix tremblante, obtenir pour elle une cellule, si petite fut-elle, où elle serait seule ?»«
Impossible, mademoiselle, à mon grand regret. » C'est un des graves inconvénients de cette prison, nous manquons de place et dans cette section de femmes arrêtées pour délit de droit commun, nous n'avons que des salles communes ou, pour celles qui peuvent payer, des chambres que les prisonnières sont obligées d'habiter au nombre de 3 ou 4, quelquefois 5 ou 6. Et, tout possédé de son sujet, il entra dans des détails, expliqua à Mademoiselle de Sarzac que cette situation était pour lui une source de regrets et de difficultés, que le fait était, de toute évidence, immoral, car des femmes arrêtées parfois pour des délits insignifiants se trouvaient, pendant leur séjour dans la prison, en contact avec des criminels de bas étage. Elle écoutait, écrasée, étourdie, dominée aussi par un étonnement affreusement pénible, en entendant parler avec tant d'aisance, tant de naturel, comme de choses courantes de la vie, d'un milieu et d'un ordre de faits ou d'idées qu'elle n'avait jamais soupçonnés.
« C'est affreux » murmura-t-elle.
Elle se leva et le directeur la reconduisit jusqu'à la porte en disant « Toutes nos prisonnières sont traitées avec beaucoup d'humanité, mademoiselle. Les religieuses qui s'occupent du service sont très patientes. Il est bien rare que nous soyons obligés d'en venir au cachot. »«
Le cachot ! » s'écria-t-elle avec horreur.
Et ce fut sans en avoir conscience qu'elle traversa les 2 pièces d'entrée et se trouva hors de la prison. Sous le large porche ouvert, une femme attendait et avant qu'elle ait eu le temps de la reconnaître, elle était serrée dans les bras de Mademoiselle Plouvel qui, tout en larmes, répétait «
Ma pauvre, ah, ma pauvre enfant !» Mademoiselle de Sarzac ne manifesta aucun étonnement. Chez elle, les sensations ordinaires de la vie étaient en quelque sorte suspendues, mais si un adoucissement pouvait lui être offert, c'était bien la présence de Mademoiselle Thérèse à Paris. Elle se laissa passivement emmener dans une voiture et résuma ses impressions dans un mot désespéré « Que je voudrais être morte !» Mademoiselle Thérèse ne répondit rien. Elle lui tenait la main et son regard de profonde compassion était un langage plus expressif que des paroles. « Croyez-vous, croyez-vous, dit Aliette en se redressant tout à coup, que mon mariage avec cet affreux homme eût pu la sauver ? Je suis torturée de regrets et de remords. Vous n'êtes pas en état de juger froidement la situation, mon enfant. Mais, croyez-moi, vous ne pouviez rien contre l'événement actuel, rien que ce que vous avez fait. Où cacher toute cette honte ? Et que c'est affreux de la voir en contact avec des femmes abominables, privées des choses matérielles dont elle ne pouvait se passer. Ah ! Elle est bien punie ! » Et cette pensée l'attendrissant, elle éclata en sanglots passionnés. Mademoiselle Plouvel n'essaya pas de la consoler, elle laissa passer cette crise et, quand elle la vit un peu plus calme, lui demanda s'il fallait aller rue de Bourgogne. « Oui, je sais que mon père est sorti, nous pourrons causer seuls. » Dans le petit salon de M. de Sarzac, Aliette raconta en détail les événements. Tout sera vendu dans l'appartement du boulevard Saint-Michel. Les créanciers font naturellement main basse sur le mobilier. Il ne me restera rien et j'en suis contente. Je ne pouvais supporter la pensée de garder un seul objet dont la provenance ne fut pas nette à mes yeux. Que comptez-vous faire ? Rester ici jusqu'à nouvel ordre, mon père veut bien me garder. Vous allez venir avec moi, Aliette. Vous avez besoin de quitter Paris et je vous emmène en Bretagne. Non, c'est impossible. Ma place est ici. Il faut que je voie ma mère de temps en temps. Ensuite, je veux chercher une position. Une position ? Répéta son amie d'un ton un peu effrayé. Mais sans doute, pourquoi pas ? En effet, répondit Mademoiselle Plouvel qui ne pouvait dire sa pensée. Mais elle songeait avec la plus vive inquiétude aux difficultés et aux humiliations qui attendaient la jeune fille. « Les bons rilis vous recevrez, Aliette. »« Jamais je ne le leur demanderai, » dit-elle en rougissant. « Je suis leur cousine. Ils m'ont reçue comme telle en face de tout leur entourage. Ce serait leur imposer une sorte de déshonneur. » « Je ne le crois pas, » dit doucement Mademoiselle Thérèse, « et ce ne sera pas leur manière de voir. Mais nous en parlerons plus tard. » Sur une question d'Aliette, elle lui expliqua qu'elle devait venir prochainement à Paris et avait précipité son départ en recevant la lettre de la jeune fille. Puis que, ne l'ayant pas trouvée rue de Bourgogne, elle avait couru à la prison. Le vieux gardien lui avait dit qu'Aliette était, en effet, entrée quelques instants auparavant et elle avait attendu sous le porche. L'idée de vous savoir seule dans cette terrible épreuve m'était insupportable, ma pauvre enfant. Je voulais qu'après cette trop douloureuse visite, vous puissiez vous appuyer sur un cœur qui vous aime chaudement. Et alors, avec son élan ordinaire, elle effleura tous les sentiments de la jeune fille pour les apaiser, détruisant avec sagacité les remords qu'elle pouvait avoir, la relevant à ses propres yeux, et peu à peu, à mesure qu'Aliette se calmait, laissant déborder l'élévation naturelle de sa pensée pour sortir la malheureuse femme de l'atmosphère boueuse qui l'étouffait, mais surtout la pénétrant de la saine chaleur d'un cœur plein de pitié. Elle professait que sa vieille expérience lui avait appris, depuis 40 ans, qu'un parfait raisonnement et une belle théorie ne valaient pas pour soulager ou même élever l'être qui souffre, une goutte de compassion sincère, l'oubli de ses propres impressions pour entrer dans celle de l'âme que l'on veut secourir. Souvent, elle se disait que, à la place de ceux qui lui confiaient leur chagrin et leurs motifs de souffrir, elle penserait ou sentirait autrement, mais ils souffraient, et pour elle, le reste n'existait plus. Le baron entra au moment où elle venait de décider avec la jeune fille qu'elles iraient ensemble chez l'avocat de Madame de Sarzac.
Aliette lui présenta Mademoiselle Plouvel, qu'il salua avec une grande courtoisie, car il se piquait d'être, dans ses manières, gentleman accompli. Du premier coup d'œil, il fut jugé par Mademoiselle Thérèse et mis au nombre des gens qu'elle haïssait cordialement. Cependant, il était aimable, et remarquant que sa fille avait pleuré, il fit allusion à leur malheur. « Aliette vous aura dit, mademoiselle, dans quelle triste position je me trouve actuellement. »«
Dans quelle affreuse position elle se trouve ? Oui, monsieur, certainement. » »«
Mon Dieu, reprit le baron avec froideur, elle s'appuiera désormais sur moi. Mon appartement est petit, mais peut contenir deux personnes. »
« Ce sera provisoire, répondit Aliette. Il faut que je cherche à gagner ma vie. »«
Mais ta voix reviendra, et sous ma protection. »«
Oh, cela jamais, dit-elle en pâlissant. Je veux une position cachée, je ne veux plus paraître en public. »«
Mais c'est le seul moyen pour toi d'obtenir un gain sérieux, de te créer une situation indépendante. »
« Avant ces terribles événements, vous blâmiez la vie que j'étais obligée de subir, » dit-elle avec surprise. « Cette vie n'aurait-elle pas aujourd'hui un côté 10 fois plus pénible ? Cachons-nous, c'est le meilleur parti que nous ayons à prendre. »«
Mon Dieu, tu feras à ta guise, » répliqua négligemment le baron. « Mais ne trouvez-vous pas, mademoiselle, qu'il est absurde de mettre volontairement la lumière sous le boisseau ?»
Il est clair que les points de vue changent, et bien folle et qui se fie alors à d'anciennes idées, répondit-elle d'un ton qui la fit regarder de travers par M. de Sarzac. Pour moi, je comprends la pensée d'Aliette et sa répugnance qui doit être insurmontable.
N'en parlons plus, dit le baron avec son affectation habituelle d'indifférence. Elle cherchera autre chose. Elle peint gentiment à la gouache. Elle pourrait peindre des images, des écrans, que sais-je. Elle gagnerait seulement 1 millier de francs par an, que ce serait déjà beaucoup pour elle. Je lui donnerai volontiers sur cette somme 200 ou 300 francs.
Admirable et juste rémunération, répondit Mademoiselle Thérèse, qui eut éprouvé la plus vive satisfaction à voir administrer la bastonnade à M. de Sarzac. Elle se leva et dit à Aliette :
À demain, n'est-ce pas ? Je viendrai vous chercher à 1 heure. » Mais la jeune fille voulut la reconduire jusqu'à son hôtel et, appuyée sur son bras, marcha quelque temps silencieusement, puis lui dit
« Mon père ne vous a pas plu ?»«
Oh Dieu, non !» répondit Mademoiselle Plouvel, qui, bouillonnant encore intérieurement et prise à l'improviste, laissa échapper sa pensée. « Causez-vous ensemble, parlez-vous de votre mère, sait-il que vous êtes allé la voir ?»
Il m'a défendu de lui parler de ma visite à Saint-Lazare.
Ah, très bien, j'aurais voulu vous emmener, Aliette, je le désire plus que jamais, et, au fond, je suis venu à Paris pour vous chercher. Cependant, puisque vous pouvez être utile ici, attendons. Toutefois, promettez-moi, si les circonstances s'opposent à vos projets, de venir nous trouver en Bretagne.
Oui, j'irai, et n'approuvez-vous pas mes projets ?
Si, si, certainement. Mais Mademoiselle Thérèse, après sa visite au baron, avait des doutes qui prenaient rapidement l'apparence d'une certitude. Elle pensait que la jeune fille était sortie d'un gouffre pour tomber dans un autre, et elle passa la soirée à méditer sur la situation, car elle s'absorbait dans les chagrins de ceux qu'elle aimait infiniment plus que dans ses propres peines.